Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage sur les ondes de Radio Fil de l'Eau 106.6 à Lille-Jourdain et 100.9 à Florence. Aujourd'hui, nous partons au collège Saint-Joseph de Lectour où, dans le cadre du projet Jardin des Huntaneurs, initié par le PETR Pays Porte de Gascogne et le Centre d'art et de photographie de Lectour, des élèves de deux classes de 6e du collège ont pu interviewer deux artistes intervenant dans ce projet, Nathalie Brevet et Hugues Rochette. Ils ont eux-mêmes préparé les questions et eux-mêmes mené cette interview. Ce sera en deux épisodes. On est parti pour le premier.
Je rappelle donc aujourd'hui, nous accueillons Madame Ménard, voilà, Hugues Rochette, artiste, alors sourcier.
Non, le cas échéant fait qu'on a fait appel à ça, mais artiste court.
Bien artiste, sûr. Voilà.
Nathalie
Brevet. Voilà, merci. Donc, il participe à un projet que l'on vous a déjà présenté il y a quelque temps. Vous êtes allé également sur le terrain pour vous rendre compte finalement du début de la mise en place du projet. Je vous demande donc d'être particulièrement silencieux et à l'écoute pendant que vos camarades, donc Théo, Pierre, Anna et Elodie, camarades de 6e, vont interviewer nos deux artistes présents ici aujourd'hui. Je vous laisse la parole à vous.
À quel âge avez-vous débuté votre carrière d'artiste ?
Alors, je commence.
Bon, on va faire un petit bonjour quand même, on va se présenter un peu avant de dire quel âge. Quel âge as-tu commencé à interviewer ?
Moi, j'ai 11 ans.
Ben voilà. Alors, peut-être tu fais une petite introduction ?
Déjà, on est super content d'être là avec vous. On a été très surpris d'être invité à une émission radio. C'est notre première émission de radio où on a l'occasion de parler du projet des Jardins des Huntaneurs. Et donc, je vais répondre à la première question. J'y répondrai de deux façons. On ne sait pas trop quand est-ce que ça commence, parce que du coup, faire des œuvres, être sensible à la question artistique, ça se passe surtout au début dans l'imaginaire. Et en fait, je crois que dès que l'on est, on commence à imaginer très vite et très fort. Et après, de manière plus claire et nette, si je dois dire un âge, je dirais pour moi, en fait, très tardivement. J'ai été très tard en fait dans les musées. Je crois que mon premier musée d'art contemporain, j'y suis allée, j'avais 20 ans. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire de l'art, entre guillemets, au sens où produire des œuvres en collaboration avec Hugues. Voilà, donc je te fais deux réponses.
Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir artiste ?
À moi ou à toi ? On peut faire un ping-pong.
Hein. En fait, Nathalie va un petit peu de t'exposer le contexte. J'aimais bien l'idée de faire de l'art, je ne sais pas trop ce que c'est, mais art, je crois qu'étymologiquement, ça veut dire faire, en fait, en soi. Donc du coup, c'est un rapport sensible, c'est une rencontre avec des choses, c'est quand est-ce que tu viens vers un monde poétique, c'est dans tes lectures, dans tes découvertes, dans la manière dont tu vas contempler peut-être une œuvre dans un musée, mais aussi un paysage en extérieur, tu vois, un bâtiment patrimonial ou ce genre de choses. Quand ça éveille des sensibilités chez toi et que tu commences à travailler dans ton esprit quelque chose qui vient en transformation, en lecture d'un lieu, en appropriation, que tu t'imprègnes du site en question ou de la chose que tu as appris à regarder, je pense que déjà, tu es déjà dans une idée de transformation et tu commences à avoir envie peut-être de proposer des choses sensibles. Les choses sensibles deviennent des œuvres, en fait, en soi.
Quelle formation avez-vous suivi pour le devenir ?
Alors là, c'est très intéressant parce que justement, Nathalie y répondait un petit peu aussi tout à l'heure, comme on n'est pas issu d'un projet comme ça où tu sors du lycée, tu as envie de t'inscrire dans une école avec une formation à art visuel, art plastique, comme on dit aussi. En fait, on a fait, nous, des différents parcours avant de se rencontrer. Et c'est dans la discussion entre nous deux qu'on a, et un jeu de rencontre avec des gens extérieurs, qu'on a décidé de... ou qu'on a eu l'opportunité de mettre en place des projets dans des lieux d'exposition d'art contemporain. Donc en fait, on n'a pas fait de formation liée à ce qu'on appellerait des activités, classiquement ce qui serait une école des beaux-arts, par exemple. Nathalie vient des sciences humaines, elle est plus dans la sociologie et le rapport à l'urbanisme, et en ce qui me concerne, j'étais plus dans le graphisme et pas directement dans ce qu'on appelle les arts plastiques. Ça, c'est les parcours de vie qui fabriquent ce genre de choses.
Comment caractérisez-vous votre style artistique ?
Comment on caractérise le style artistique ? Je pense que ce qui nous intéresse, c'est l'expérience du lieu. C'est être dans un espace, ça peut être un jardin, ça peut être un bâtiment lié, ça peut être un patrimoine ancien, ça peut être un patrimoine plutôt récent. Et à partir de là, en fait, on va travailler avec l'espace, avec le lieu. On va faire des recherches, on va discuter, il va y avoir des choses qui vont nous intéresser. Et donc du coup, c'est une démarche in situ. La première des choses, c'est qu'on travaille avec le contexte. Tu veux compléter peut-être ?
Non, mais par contre, on peut peut-être se demander si vous comprenez ce que ça signifie travailler spécifiquement avec le site ou in situ, comme on dit justement. Connaissez-vous cette...
Moi, pas vraiment.
Parce que c'est ça qu'on peut expliquer. Mmh. Travailler spécifiquement pour un site, c'est-à-dire prendre un lieu avec son histoire. Nathalie dit souvent, pour vous imager cela, c'est arriver dans un lieu dans lequel on est invité à faire une intervention. Parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Ce sont des commandes. Des commandes, ça veut dire qu'on nous propose un... Bah, comme elle l'a exposé, ça peut être un lieu patrimonial ou tout autre. Il s'avère qu'à Lectour, c'est une parcelle vierge qui avait le projet de devenir jardin. Ça, vous avez suivi, je pense. On arrive dans un site dont la discussion a déjà commencé. Est-ce que tu me suis quand je dis ça ? C'est-à-dire qu'il y a déjà toute une histoire. Il est déjà chargé de tout un parcours, ce site. Des gens l'ont habité, l'ont transformé. Nous, on vient pas avec une page blanche, une page vierge. C'est pas un tableau blanc dans lequel on a à réfléchir quelque chose pour faire une proposition qui n'existait pas autrement. Et encore que ce genre de question peut se poser même par rapport à un format, à un cadre. Mais ça, c'est un petit peu compliqué. Mais cet espace qu'on nous alloue, on a à intervenir dedans. En intervenant dedans, forcément, on s'intéresse déjà à tous ces points de vue. Toutes ces choses qui sont l'histoire du lieu, qui l'a habité, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être son orientation, ça peut être un rapport à sa lumière, enfin au ça son. Peut être au son, bien sûr le son est très important, ça, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Donc quand on dit travail spécifique, c'est-à-dire qu'on va forcément s'appuyer sur quelques éléments qui ont été de notre ressenti, comment on a perçu ces choses, pour pouvoir développer quelques lignes qui vont devenir les lignes directrices de la proposition qu'on va faire. Ça,
c'est plus clair.
C'est plus clair pour vous aussi ?
Plus complet.
Ah, j'ai plein de hochements de tête, c'est super.
Quel est votre rythme de travail ? Avez-vous des jours de repos ?
Ah, je veux bien répondre à ça, ça m'amuse beaucoup. J'adore ta question. Alors... C'est presque une question politique, ta question. C'est-à-dire que je pense qu'un artiste a à peu près le profil de ce qu'on pourrait imaginer d'une vision idéale de la société. Je prends vraiment un parti pris, là, c'est une déclaration. En fait, un artiste, ça ne connaît pas vraiment les vacances. Ça ne sait pas ce que c'est qu'un jour de repos. C'est mon point de vue, hein. Des tas d'autres gens l'exposeraient autrement. Ou alors, pour certains, c'est peut-être toujours en vacances. Et ça ne travaille jamais. C'est selon le point de vue. Si tu vas au Café du Commerce, ce matin je suis au Café du Coin, j'ai entendu des histoires de ta petit blablabla sur la vie des autres, sur la vie de chacun, et tout le monde commente. Tu sais ça. Ce qui peut être très amusant ou très agaçant, c'est selon. Un artiste, si tu veux, qu'est-ce que ça veut dire travailler ou pas travailler ? On pourrait considérer qu'il ne travaille pas, sauf que comme il a toujours une multitude de projets en tête, il est toujours à réfléchir à quelque chose. Et toutes les rencontres qu'il fait, que ce soit à travers un livre, que ce soit dans un site, que ce soit au cours d'une promenade, que ce soit sous un ciel étoilé ou au bord d'un ruisseau, c'est forcément de la nourriture qui rentre dans son, dans son, c'est de la mémoire qu'il enregistre, qui va lui être utile pour travailler sur ses projets ou lui éclairer des lignes directrices qui vont servir à ses projets. Donc est-ce que c'est pénible la vie d'un artiste ? Ben, j'ai envie de dire non, c'est génial, tu es toujours en éveil intellectuellement, mais c'est toi qui choisis ton rythme, tu vois, t'es pas obligé de te mettre une pression par rapport à ça. D'un autre côté, ça échappe pas aux règles qui sont, bah, typiquement, par exemple, quand c'est une commande comme à Lectour, qui sont que tu travailles des corps de métier, il y a des paysagistes, il y a des, ce qu'on appelle des BET paysages, des gens qui viennent faire les travaux sur le site. Il y a des tailleurs de pierre, il y a des gens qui enfin voilà, il y a toute une équipe à gérer, il y a des réunions de chantier. On devient un peu chef de projet finalement, même quand il y a une maîtrise d'œuvre. Une maîtrise d'œuvre, c'est ceux qui vont suivre le projet. Et donc du coup, on répond aussi aux rythmes qui sont tous ceux qu'on rencontre dans la société en temps normal, si tu veux. Donc on se plie bien au rendez-vous, aux réunions de chantier de la même manière. Mais malgré tout, je pense, pourquoi je disais que c'était un petit peu politique, je pense que si tout un chacun était dans la position d'un artiste, on sortirait toujours le meilleur de ce qu'on peut sortir. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'un artiste soit plus élevé que qui que ce soit, et même je ne pense pas du tout d'ailleurs. Je pense juste que si on avait tous le temps libre par rapport à tous les sujets et qu'on ne nous imposait pas toujours ce qu'on veut nous donner à faire, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça dans une école. Je pense que si tu laissais ton esprit aller à tout ce qui t'aspirerait, tu vois, t'as de la poésie dans ta tête. Souvent tu penses à des choses, tu regardes non, des choses, de paysages des fois qui te font rêver. Ou des ciels étoilés, ou je ne sais pas, ou la lumière dans ta chambre qui crée des effets, ou des jeux d'ombre, tu vois, ce genre de choses. Ou quand tu lis un livre, tu te laisses emmener dans l'histoire. Je pense que si on se laissait absorber par tout ça, et qu'on savait nous-mêmes le digérer, alors avec tout ce qu'on t'enseigne aussi, hein, le cadre éducatif fait sens, mais après, si tu savais gérer tout ça, je pense que tu sortirais aussi plein de choses poétiques et sensibles de tes gestes et de ce que tu as à proposer à tes petits camarades. Ça vous parle ce que je viens de raconter ?
Oui.
Allez-y.
Je vais intervenir, effectivement. C'est une question de. Vous avez votre sensibilité, vous avez l'environnement autour de vous, et parfois, voilà, il y aura un moment de magie qui va faire que vous êtes plus sensible. Vous allez capter justement quelque chose de particulier, et toute situation peut être source de poésie, de création. Et justement, si on se détache un petit peu de l'environnement dans lequel on peut être ancré à part le rythme qu'on vous impose ou autre, ou qui est imposé, ben voilà, il y a cette dimension-là poétique et de créativité qui est en vous dans tous les cas.
Ça, c'est certain. C'est en vous. C'est pas... Faut laisser cet espace prendre la place que tu veux bien lui donner, mais en prendre le plus possible tant qu'à faire, que quoi que tu entreprennes.
Votre métier vous emmène-t-il à beaucoup voyager ?
Bah énormément, en fait. Énormément. Mais c'est pas une obligation. Tu peux voyager en restant en restant immobile dans l'espace.
Quand vous parlez de voyager, c'est voyager, on va dire, en France ou par ici, ou peut-être même des fois à l'étranger ?
Oui, ou alors comme je viens de le dire, ou sur place. C'est à peu près ce que je viens de répondre dans à la question d'avant.
Par rapport à ça, notamment Anna et Pierre, on a travaillé justement sur un texte, la lecture, dans le cadre du récit d'aventure, qui permet finalement, tout en étant face à un livre, au cours de la lecture, de vivre l'aventure et de s'évader aussi, sans pour autant faire un parcours commando ou autre.
Avec donc, l'imagination effectivement,
en exactement. Étant assis, installé confortablement, vous pouvez aussi voyager.
Mais donc ça dépend des personnes, parce qu'il y en a, peut-être ils ne ressentent pas ça, de voyager même si on reste sur place.
Ça rejoint toutes les questions qu'on vient d'évoquer là, juste avant. C'est-à-dire que, oui, rester immobile dans l'espace, ça ne serait pas voyager, si.
Est-ce que tout le monde peut le faire ?
Oui.
Est-ce que tout le monde va au même endroit ? Est-ce que tout le monde fait le même voyage ?
Ah, ça non, heureusement. Heureusement, tu crées ton petit parcours. Bah oui, qui va te guider sur un petit parcours. C'est toi qui vas le créer, ton chemin. C'est un petit chemin que tu traces, et c'est toi qui fais ton déplacement. Oui, on voyage beaucoup physiquement, bien sûr. Alors déjà, on suit nos projets. et ils sont souvent géographiquement un peu éclatés. Là, par exemple, l'œuvre qu'on est en train de faire avec la ville de Lectoure, on a quelque chose d'à peu près équivalent qui se met en place avec la ville de Lille. Tu vois, donc en fait, voilà, tu es à peu près la France dans sa trad, dans toute sa hauteur. Mais on voyage aussi beaucoup parce que, justement, sur ce temps de travail, on fait notre calendrier, si tu veux. Donc, on a, entre chaque projet, on a des espaces pour, des fois, aller à la rencontre. Ces derniers temps, c'était très, très ethnographique ou même c'était très lié à un projet qu'on devait faire sur la gravure pariétale. Vous voyez ce que c'est que la gravure pariétale ? Voilà. La gravure pariétale fait que ça m'a amené dans une île qui s'appelle dans les Célèbes, c'est en Sulawesi. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la Sulawesi, c'est en Indonésie, c'est en Asie du Sud-Est. Parce que justement, il y a des projets, le ministère de la Culture indonésien m'a donné accès aux plus anciennes peintures figuratives qu'on trouve sur des grottes, qu'on ait découvert jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Il n'y a que 50 personnes, je crois, qui avaient eu la chance de pouvoir y aller, donc j'étais très heureux qu'on m'offre cette opportunité. Et typiquement, voilà, j'ai traversé, je crois, on ne peut pas faire des distances beaucoup, beaucoup plus longues, enfin aller en Australie peut-être, mais pour juste aller voir ces peintures, être invité à cette rencontre. C'est très émouvant de rentrer dans un espace comme ça. Les peintures avaient 45 000 ans.
Ça fait beaucoup.
Oui, parce que si tu regardes Chauvet, par exemple, tu sais combien, quel achat ? C'est à peu près 17 000, je crois, donc on est à 20 000 ans à peu près. Donc c'est plus du double. Je crois que Chauvet, c'est 30 000 ans. Lascaux, c'est 20 000 ans, c'est ça ? Donc ça fait des bonds énormes quand même, tu vois. Si tu as des notions de 10 000 ans, il faut que tu me la racontes. Hein.
Rencontrez-vous des célébrités grâce à votre métier, à vos œuvres ?
Vous ? Vous ? On rencontre, mais je parle beaucoup là, je vais peut-être te laisser répondre.
Bah écoute, j'aime bien ta réponse. Donc oui, je suis d'accord, vous, parce que finalement, les rencontres, elles sont aussi toutes différentes les unes des autres. On peut rencontrer des personnes célèbres, reconnues dans leur métier, ou des personnes qu'on dirait plutôt ordinaires, mais qui ont une vie tellement riche au bout du compte qu'elles sont aussi célèbres à leur manière. Et tout ça, ça va avec ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est que pour nous, l'art avant tout, c'est une expérience, c'est le fait de rencontrer des lieux, de rencontrer des gens, de se nourrir de plein d'imaginaires, et que du coup, plein de gens y participent aussi avec nous.
Alors, sans parler de célébrité, ce que dit Nathalie, est, je trouve très important, c'est-à-dire que ce que vous avez préparé là, tous ensemble, vous êtes concentré sur un travail, une réflexion sur le sens d'organiser des questions pour dérouler une émission. Mais tout ce qui est mis en place, c'est un effort produit collectif. Quand vous êtes dans cette logique-là, vous êtes déjà dans une réflexion un peu passionnée, je trouve. Et donc, quelque part, ça fait de vous une célébrité, puisque c'est vous qui posez les questions. À la radio.
D'autant plus qu'effectivement, ils posent des questions et ils doivent être à même de rebondir parfois par rapport à vos propos. Et en ce sens, c'est quand même un beau challenge que de le réussir de leur part.
Pour votre projet, pourquoi avoir choisi la ville de Lectoure ?
D'autant plus que tout à l'heure, vous avez évoqué que vous meniez effectivement un autre projet semblable à Lille.
En fait, le projet de la ville de Lectoure, c'est une commande publique en fait, qui a fait l'office d'un concours dans lequel ont participé plusieurs artistes. Si nous, on a participé à ce concours, c'est que le sujet nous intéressait beaucoup puisque la ville de Lectoure proposait de travailler sur la question de l'eau et de la ressource en eau. Et donc, du coup, en ce sens-là, on peut dire qu'on a choisi de travailler à Lectoure parce qu'en fait, le sujet nous intéressait énormément.
Et effectivement, il y a l'eau. Est-ce qu'il y a une particularité dans ce projet-là qui vous a touché plus particulièrement ou que vous souhaiteriez développer par le biais du projet ?
Oui, je pense que c'était une rencontre qui arrivait pile poil, en fait, en quelque sorte, où ça faisait déjà plusieurs projets où on travaillait avec l'eau. de plein de façons différentes en fait, hein, dans des lieux d'exposition, on travaillait aussi avec les reflets et en fait à Lectoure, on pouvait s'interroger sur la question de où était l'eau, de la question du sourcier. Et derrière la question du sourcier, ce qui nous intéressait, c'était le rapport sensible que tout à chacun a avec son environnement, parce qu'en fait, on voit l'environnement, on l'entend, on le touche, on le sent, mais on le ressent aussi. Et en fait, Lectoure a une histoire très ancienne avec l'eau. Avant la révolution industrielle, avant les constructions de technologies pour nous aider à chercher l'eau, on savait chercher l'eau. On avait juste des manières différentes de le faire. D'où le rapport au savoir traditionnel et en savoir ancestral qui nous permettait en fait de pouvoir rentrer en contact avec le lieu, donc d'expérimenter autre chose. Tu veux compléter ?
Donc ça veut dire que bah, l'eau a toujours été un peu recherchée parce que c'était un centre de vie.
Oui.
Et du coup, c'est sur ça aujourd'hui que vous allez faire le projet.
Oui, 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 le projet porte sur ça.
Quel projet antérieur du jardin de Untaner avez-vous réalisé ?
Avant le jardin de Untaner ? Oui. De façon plus générale, le projet avec l'eau qu'on a réalisé avant le jardin des Untaner était très différent. En fait, c'était à Dunkerque, du coup, dans un lieu portuaire industriel. On a travaillé avec des conteneurs, hein, des conteneurs dits du dernier voyage, donc quasiment usés, prêts à être mis au rebut, en fait, et qu'on a utilisé pour faire de la sculpture. On a utilisé 4 ou 6 conteneurs qu'on a positionnés les uns au-dessus des autres en débord sur le port, et on a pompé l'eau du port dans les conteneurs qu'on a fait monter jusqu'au dernier pour redescendre en cascade avec les portes ouvertes. Et en fait, ce qui nous intéressait dans cette expérience-là, c'était que les visiteurs pouvaient rentrer à l'intérieur du conteneur, donc eux-mêmes d'être au contact de l'eau, et d'entendre la résonance de l'eau dans le métal et de travailler sur le cycle de l'eau. Donc il y avait déjà ce côté sensoriel qui nous intéressait, et le jardin des Untaner est arrivé un petit peu dans la suite. Donc c'est une autre façon de travailler avec l'eau.
Avez-vous déjà réalisé un projet similaire au jardin des Untaner ?
On est en train de faire quelque chose qui est très... C'est pas similaire, c'est jamais exactement la même proposition, puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est spécifique à un site, donc ça peut pas, même si on voulait reproduire, en fait, forcément dans l'approche du lieu, on en ferait quelque chose de différent. Par contre, oui, à Lille, on fait quelque chose qui relève aussi d'une œuvre qui va prendre forme avec un jardin, des volumes en fait, qui vont. La sculpture va être des volumes végétales. Ça parle pas directement de l'eau, ça parle des lenticelles, ça parle de les petits strics, tu vois, à la surface de certains arbres, comme le bouleau, par exemple, où tu vois ces petits, sous l'écorce, enfin sur l'écorce d'ailleurs, tu as des petits strics qui font penser à du langage morse, là, tu vois, des petites lignes avec des petits points qui apparaissent, qui permettent à l'arbre de respirer, et c'est par là qu'il attrape la rosée, l'eau, en fait, dont il a besoin pour se... Et donc on travaille avec cet élément-là, parce qu'on travaille à la surface, on travaille au rapport avec la peau. Mais les objets qui sont les objets verriers qui vont faire la lumière dans cet espace, donc un espace qui va prendre un peu une forme de jardin finalement, rappellent aussi les vagues et les effets d'eau en fait à la surface de l'eau, les petites ondulations, les petites encycliques on peut voir. Du coup, il y a des choses comme ça un petit peu similaires, et je pense que oui, on peut grandement rapprocher ces deux projets. Donc, jardin des Untaner, alors on dirait.
Untaner, oui,
je dirais Untaner aussi, mais je me suis rendu compte que tu n'étais pas gascon, parce qu'hier j'ai pris une leçon de gascon, et c'est pas, pas comme ça qu'on dit, en fait, paraît-il. Non, tu sais ou pas ?
Moi ?
Oui. Redis le titre, par exemple, jardin des.
Untaner.
Untaner. D'accord. Moi, je le prononce comme ça aussi, donc on est d'accord. Et donc, les lenticelles à À Lille, oui, effectivement, c'est deux projets un peu similaires. Mais ce qu'évoquait Nathalie juste avant, c'est que l'eau est très récurrente et ça fait peut-être, j'ai envie de dire, 20 ans qu'on fait des projets, oui. Depuis les tout premiers, le premier projet. L'eau est devenue un petit peu un élément permanent dans énormément de nos propositions, elle est présente.
En fait, je peux compléter la réponse à...
Visible ou non visible, d'ailleurs.
Oui,
ça peut être symbolique.
Oui, la réponse à la question, c'est que dans ce qui ferait le fil conducteur entre le jardin des Huntanner et les autres œuvres, c'est que de plus en plus, on va jouer avec le côté invisible. Ça veut dire qu'on ne va pas jouer avec une sculpture classique, comme on fait depuis très 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 longtemps, mais on va expérimenter autre chose. Donc ça ne va pas être quelque chose de posé dans l'espace, c'est l'espace qui va être l'œuvre. Ce qui peut un peu être déboussolé, parce que si on arrive dans nos installations en se disant « Oh là là, je veux voir l'œuvre », ben en fait, on voit l'œuvre, mais sans s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire au jardin des Huntanner. C'est vraiment amener les gens à être dans le lieu et pas forcément face à l'œuvre, mais à les mettre dans l'environnement.
Une immersion totale.
Une immersion totale, oui, oui. Et c'est vrai que c'est des choses qui, pour le coup, qui, pour nous, fait la singularité aussi du projet de Lectour, parce qu'on a pu, en fait, mener cette expérience jusqu'au bout. Et pour nous, ça nous parle aussi beaucoup, c'est que ça nous permet de faire une couture très étroite entre les questions environnementales et les questions de l'œuvre, puisque l'œuvre devient l'environnement et devient aussi au service. L'œuvre est mise au service du lieu. Donc on essaye de renverser un petit peu cette posture.
Et un message, une prise de conscience aussi par rapport à l'eau, rendre visible l'invisible, oui. Pour les gens qui justement se rendent sur le site artistique.
Et c'était vraiment ça l'idée, c'était l'œuvre était l'eau. En fait, quand on est arrivé sur le site, on s'est dit que l'œuvre était déjà là. Mais la question qu'on s'est posée, c'est comment on fait pour souligner sa présence. En même temps, la rendre visible sans la déranger, entre guillemets. Et c'est pour ça que finalement, il fallait déjà la tracer, il fallait déjà savoir par où elle passait. Et une fois qu'on a récupéré son tracé, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut le déterrer pour montrer son passage ? Ou est-ce qu'il faut juste signaler sa présence et la suivre un petit peu comme un jeu de piste, en fait ? Et en même temps, dans ce tracé, dans cette recherche de l'eau sur le site, ça nous a amené aussi à redécouvrir des puits qui étaient fermés jusqu'à aujourd'hui, en fait, qui avaient existé, qui avaient une fonction, et puis qui s'étaient endormis, qu'on avait oublié, en fait. Donc il y a un vieux puits qui est tout en haut, qui date du XVIe siècle à peu près, et un puits plus récent, en fait, et qui servait... à l'agriculture il y a une cinquantaine d'années, en fait, donc il y a moins longtemps.
Et là, en fait, c'est composer son œuvre justement en fonction du lieu. Et on rejoint ce qui était dit en début d'interview. In situ, voilà, c'est on prend en compte l'histoire du lieu. Voilà. C'est le lieu finalement aussi qui nous invite à le développer.
Avez-vous des contraintes dans votre métier ?
Oui. Oui, les contraintes, elles existent. Après, la question, c'est de savoir ce qu'on en fait, en fait. Est-ce que les contraintes nous empêchent de faire quelque chose ? Ou est-ce que les contraintes nous permettent de nous repositionner, de nous poser la question différemment, de dire, ah, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas par ce chemin-là, mais on va faire ce chemin-là. Et en fait, en faisant l'autre chemin, on trouve aussi d'autres choses. Après, il y a des contraintes qui existent comme tout le monde, mais on peut aussi les prendre comme un moteur ou quelque chose qui nous permet d'aller un petit peu plus loin.
Ça fait de la contrainte une force, en fait, dans ce cas-là.
Vous êtes très optimiste.
Les artisans avec qui nous travaillons disent souvent la contrainte, ça développe la créativité.
Oui. Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples de contraintes à nous donner ?
Alors, on en a plein, mais alors si on développe celle qu'on a rencontrée à Lectour, on va peut-être avoir des petits problèmes de diplomatie.
comment avez-vous découvert vos pouvoirs de sorcier ?
Oh, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un jour, je suis chez des amis. Il y a une personne, dans une discussion, c'est souvent comme ça que ça se passe, qui dit avoir le don de l'eau. Alors, un peu curieux de ce genre de choses, j'imagine, comme vous l'auriez été, je lui demande, en fait, mais comment ça se passe ? Comment tu ressens l'eau ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il est parti prendre une petite baguette de coudrier, de noisetier. Et cette baguette de noisetier, il a découpé un Y, là, juste deux branches en Y. Et il est parti en mettant entre ses mains inversées comme ça avec la baguette pour aller à la rencontre du terrain pour servir les intérêts de la personne qui lui avait demandé à l'origine. Et du coup, sa baguette se met en vibration et il me dit ce qu'il ressent et pourquoi il sait dire où situe l'eau, etc. Donc je me suis prêté au jeu. Il s'avère que ça réagissait très rapidement et après je n'ai cessé de jouer avec par amusement une fois qu'on découvre ce genre de choses. Et je me suis surtout rendu compte qu'en fait il n'y a aucun don de sourcier. En fait le rapport à la réaction de cette baguette, c'est simplement du fait que tu captes l'électricité qui passe dans le sol, c'est-à-dire que tu as une sorte de magnétisme finalement. L'eau, quand elle passe dans des cavités, enfin, quand elle circule dans le sol, il y a des cavités qui sont autour de l'eau. Ces cavités se chargent d'une sorte de charge électrique, pour faire simple. Et en fait, c'est ça que tu ressens. Tu ressens cette charge un peu magnétique qui passe dans ton corps. Mais si tu regardes les animaux faire, en fait, ils le ressentent toutes. Tous. Okay. Tous. Et toi, t'es aussi un animal à la base.
Donc, en quelque sorte, tout le monde le ressent un peu.
T'es censé le sentir, t'es censé le sentir intégralement. Et je pense que tout le monde, ça passe chez tout le monde en fait. Mais maintenant, comment t'expliquer qu'il y en a qui le ressentent franchement et qui peuvent effectivement se laisser guider par ça et d'autres non ? Alors ça, je pense que c'est un rapport un petit peu compliqué, mais ça reviendrait presque à dire que la baguette, elle sert à rien en fait. C'est un accessoire. Donc finalement, si tu le ressens dans ton corps, tu le ressens dans ta main, tu le ressens passer, tu vois ? Mais pour ça, probablement, il faudrait qu'on fasse tous fi complètement de notre ego. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on oublie que c'est pas pour nous et tout ce qu'on nous a mis comme barrière et barrage, et qu'on revienne à un stade de, quand on voit nos petits autres vivants qui sont autour de nous réagir avec des choses aussi nettes sur les vibrations du sol, se dire qu'en fait, on devrait pouvoir apprendre à se mettre aussi en vibration avec ça. Donc je pense que vous allez tous tester maintenant l'idée de savoir où ça passe et voir comment vous vivrez dans vos mains, dans votre corps. On va peut-être le faire avec une baguette déjà, ça serait pas mal. Ouais. Voilà comment ça s'est passé. C'était une jolie histoire de rencontre, comme toujours.
Très bien, merci. On va faire une petite pause et puis poursuivre après le temps de récréation.
C'est la fin de ce premier épisode de cette interview réalisée donc par deux classes de 6e du Collège Saint-Joseph de Lectoure. Le second épisode sera trouvé dès la semaine prochaine sur les ondes de Radio Fil de l'Eau et ils seront bien évidemment en podcast sur notre site www.radiofildelot.fr. D'ici là, les programmes continuent, 106.6 à Lille Jourdain, 100.9 à Florence et www.radiofildelot.fr. Une très bonne journée à toutes et à tous.